Je voudrais commencer en remerciant le professeur Zinc de m'avoir convié à ce séminaire, et c'est avec grand plaisir que j'ai répondu à cette invitation qui m'honore. Vu de la culture japonaise, ce thème est fort riche et peut s'envisager de façon très diverse. J'ai donc privilégié certaines pistes de réflexion, et il ne fait pas de doute que d'autres que moi auraient effectué des choix différents. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui ne représente donc qu'un aperçu, représentatif, j'ose le croire, de ce que l'on peut dire de l'humilité et de l'humiliation dans le Japon classique. L'abondance des sources était telle que j'ai finalement décidé de me limiter à la période classique et de ne pas aborder ce thème dans la société guerrière du Japon médiéval. En philologue impénitente, j'ai tout d'abord interrogé le lexique ancien et tenté de trouver des équivalents, des termes ou des concepts d'humilité et d'humiliation. La langue japonaise étant composée d'un double lexique, d'origine chinoise, savante et souvent bouddhique d'une part, et purement japonais, vernaculaire d'autre part, il faut donc se pencher sur deux registres de vocabulaire. Ainsi, le mot d'origine chinoise « hige », à la fois substantif et verbe, désigne une condition sociale inférieure, mais renvoie aussi au fait de se déprécier ou de s'effacer volontairement devant autrui. Purement japonais cette fois, les verbes « heru » qui n'existent plus guère dans la langue moderne et sont composés « heri kudaru » sont très anciens, attestés dès les plus anciens textes conservés au début du 8e siècle. On note qu'ils ne désignent pas l'idée d'une humilité vécue comme intériorité, mais le fait de conformer son comportement à la hiérarchie sociale. Ce n'est pas très étonnant dans la mesure où, dans la culture japonaise ancienne, à laquelle on a accès aujourd'hui du moins, et qui se limite essentiellement à la cour impériale, cette question ne peut s'envisager indépendamment de celle du statut social qui détermine le rapport à soi et à autrui. De fait, c'est un trait que l'on trouve dans l'un des plus anciens témoignages écrits sur ce qui deviendra le Japon. Ce texte a été rédigé en Chine. Il s'agit d'une histoire dynastique officielle, en l'espèce, la monographie sur la dynastie Wei, compilée à la fin du 3e siècle ou au début du 4e siècle de notre ère. Dans cette chronique, une section ethnographique de plus de 2000 caractères, le Wajinden, ou relation sur les Wa, c'est-à-dire les habitants de l'archipel, atteste l'existence d'un royaume plus puissant que les autres pendant la seconde moitié du 2e siècle et jusqu'au début du 3e siècle. Il est appelé Yamatai et gouverné par une reine appelée Himiko ou Pimiko. Fait intéressant pour mon propos, le texte précise également que ce peuple des Wa, lorsqu'ils rencontrent des gens plus importants, leur témoignent du respect et se mettent à genoux en joignant les mains. On dit d'ailleurs dans cette source que les Wa aiment boire de l'alcool et qu'ils pratiquent la polygamie dans les strates supérieures de la société. Des gens fort sympathiques en somme. Ce long texte d'interprétation difficile a fait couler beaucoup d'encre et l'on cherche encore à localiser ce royaume de Yamatai au Japon. Comme pour Alésia, un certain nombre de sites candidats à l'identification existent à ce jour. Ce genre de source en général possède une certaine valeur d'information, encore qu'elle soit délicate à apprécier, et il faut tenir compte d'erreurs possibles dans la transmission orale, ainsi que dans l'interprétation que les Chinois, au contact à l'époque avec une région limitée du Japon actuel, vraisemblablement le sud de l'archipel, donnaient aux faits observés. Leurs descriptions sont biaisées par la distance géographique et culturelle ainsi que par le décalage temporel entre le moment probable de l'observation, la première moitié du 3e siècle, et le moment de la rédaction, fin du 3e siècle au plus tôt. Pour difficile à interpréter qu'il soit, certains traits décrits dans ce texte sont confirmés par l'archéologie ou par des sources postérieures. Ainsi, outre le goût pour les poissons fortes et la polygamie, l'extériorisation des marques de déférence vis-à-vis d'un supérieur hiérarchique que l'on vient de voir semble en effet constituer une caractéristique notable de la civilisation japonaise ancienne, si prégnante dans l'attitude et les actes de langage jusqu'à l'époque contemporaine. L'humilité, à l'époque classique, semble donc, dans le cas du Japon, de nature purement sociale. Elle n'a rien de moral ou de spirituel, et ne peut être rapprochée de l'humilité chrétienne. Afin de se garder de tout malentendu, il faudra voir rapidement ce qu'il en est dans l'univers bouddhique. Mais auparavant, je voudrais compléter ce premier aperçu lexical en me penchant un instant sur l'horreur de l'humiliation. On la trouve associée notamment à deux termes, encore une fois révélateurs de la nature sociale du regard porté sur soi et sur les autres. Un mot d'origine chinoise, la face, même beaucoup, et un mot purement japonais, la honte, haji. Connaître l'humiliation peut se dire littéralement perdre la face, même beaucoup au ushinau, ou bien subir la honte, voir sa honte littéralement, haji o toru, haji o miru. Le verbe humilier est formé sur la même racine que le verbe haji, avec alternance vocalique, hazukashimu. Enfin, on trouve un adjectif japonais ancien, netashi, utilisé pour décrire le sentiment d'humiliation que l'on éprouve vis-à-vis d'autrui, en particulier dans une situation de rivalité. Fait remarquable, il signifie littéralement « souffrir en son nom » et donc être blessé dans sa gloire, car il provient de l'association de deux mots, d'une part « na », le nom, c'est-à-dire la gloire ou la réputation de quelqu'un, et d'autre part « itashi », la douleur physique ou morale. Par ce bref aperçu loin d'être exhaustif, on comprend que dans le Japon de l'époque dite de Heian, entre la fin du 8e siècle et la fin du 12e siècle, donc Japon où je vais donc puiser mes principaux exemples, l'humiliation semble donc toujours de nature sociale. Elle concerne fondamentalement des personnes de rang noble. La cour impériale constitue en effet une société très fermée où les rapports entre groupes ou individus, les stratégies matrimoniales et le déroulement des carrières découlent presque exclusivement du statut social. Loin de reposer d'abord sur le mérite personnel, comme dans le modèle chinois, la fonction occupée par chacun dans la hiérarchie administrative reflète avant tout ce statut qui correspond très exactement, dans la moyenne et la haute aristocratie, aux droits octroyés par la naissance et à la capacité de chacun à maintenir son rang, son prestige et son intégration dans le milieu de référence. L'humble, le serviteur de vile extraction, toute personne socialement insignifiante ne saurait souffrir de ce genre de déconvenue, parfois mortelle. Citons pour commencer le cas historique de Fujiwara no Enshi, noble dame d'origine princière par sa mère et fille du ministre de gauche Akimitsu. Elle était promise par son mariage avec le prince impérial Atsu Akira au plus brillant avenir. Nommé en 1016 prince héritier, Atsu Akira était de fait appelé à monter sur le trône et sa première épouse pouvait donc espérer devenir impératrice elle-même, escomptant même que le fils d'ores et déjà né de cette union deviendrait à son tour empereur. Cependant, dès 1017, l'homme le plus puissant de la cour à l'époque, Fujiwara no Michinaga, cousin de son père, mais chef d'une branche rivale de cette grande famille, Michinaga, donc, força son époux à abandonner le titre de prince héritier, pour des raisons politiques, et offrit à ce dernier, en guise de consolation, l'une de ses propres filles. Délaissé par Atsu Akira à la suite de cette manœuvre de Michinaga, Enshi fut également déserté par sa propre cour. Les notes journalières d'un haut dignitaire de l'époque racontent qu'il n'y avait plus personne pour entourer cette dame, des égards les plus élémentaires dus à son rang de naissance. Elle ne tarda pas, à trépasser de cette situation des plus humiliantes en 1019, et comme il se doit en pareil cas, à tourmenter post-mortem la famille de Michinaga en compagnie de son père Akimitsu, qui, frustré de toute perspective politique par la stratégie de son cousin, en était mort lui aussi en 1021. Assez paradoxal, au regard des splendeurs de son appareil liturgique et de la puissance de son église, l'humilité bouddhique doit être abordée, comme je l'ai dit plus haut, surtout pour éviter tout fâcheux malentendu. On sait en général que le renoncement au monde, la prise de la tonsure dans le bouddhisme, consiste notamment à se dépouiller de tous ses biens et à faire vœu de pauvreté, ce qui rend cette démarche de loin assez comparable à ce que l'on peut observer, il me semble, dans le monde chrétien. Or, l'abandon des vêtements de la vie laïque, particulièrement somptueux dans le cas du prince Siddhartha, le futur Bouddha, ainsi que le renoncement à tous les biens possédés en propre, signifie d'abord la mort sociale absolue du renonçant, ce que le changement de nom vient souligner. Le novice sacrifie ainsi tout ce qui peut constituer un obstacle sur le chemin de l'illumination, c'est-à-dire tout ce qui le définit comme un membre à part entière d'une communauté sociale. Statut inhérent à la naissance, patrimoine, liens affectifs et notamment familiaux, nom, etc. La sortie de la maison du futur Bouddha constitue donc une tragédie pour sa famille, à bien des égards, puisque son père ne peut plus compter sur lui comme successeur sur le trône royal, il est le fils unique de cette famille, et que son épouse, comme le fils du Bouddha lui-même, doivent faire le deuil de leur lien. L'humilité bouddhique ne se conçoit donc pas dans un rapport intime avec l'instance transcendante, mais comme un moyen de couper l'ensemble des liens, matériels ou immatériels, affectifs, symboliques, qui rattachent le novice au monde des désirs et qui ne peuvent se définir autrement que comme des empêchements dans la voie spirituelle. À ce titre, notons que le moine est autorisé à posséder en propre très peu d'objets, dont un bol en métal qui lui sert à mendier sa nourriture quotidienne. Autre objet emblématique de son état de renonçant, sa robe. À l'origine, la robe du moine devait être faite à partir de haillons récupérés sur les cadavres des cimetières ou de vêtements en guenilles abandonnés par leurs propriétaires. Le moine mendiant devait ramasser les morceaux d'étoffe, les laver, les couper, les coudre et les teindre pour en faire sa robe. Cette règle tire son origine d'un épisode de la vie du Bouddha historique qui a lieu au moment où, parvenu sur un rocher sacré au pied de l'arbre d'éveil, ce dernier s'apprête à entrer dans la méditation ultime qui lui permettra d'atteindre l'illumination. Cette perspective remplit naturellement d'effroi le démon Mara ou Mashun, car en maître de l'amour et de la mort, il règne sur le cycle des réincarnations et craint de voir le Bouddha échapper à son pouvoir. Voici le récit de cette scène originelle, tiré d'une version japonaise de la vie du Bouddha, très répandue au Moyen-Âge. Quand le prince s'apprêta alors à réaliser l'éveil parfait sur ce rocher, toutes sortes de prodiges et d'heureux présages se manifestèrent innombrables. Tout d'abord, il trouva sous l'arbre un pauvre vêtement fait de haillons, et dans son désir de le laver, il se mit en quête d'un peu d'eau. Le dieu Bonten se transforma en terre et le dieu Taishakuten en une pierre au centre d'un étang. À ce spectacle, l'être d'éveil Shaka s'assit alors sur cette pierre, lava les guenilles et baigna son corps dans l'eau de l'étang. C'est alors que le démon Mashun souleva les rives de l'étang. Aussitôt, l'être d'éveil se suspendit à la cime de l'arbre et, s'agrippant à ses branches, parvint sur la rive de l'étang. Alors qu'il entreprenait de coudre les hardes qui gisaient déchirées au pied de l'arbre, des dieux descendus du ciel pur lui offrirent un grand vêtement. Il s'en vêtit et s'en fut dans un village pour y mendier sa nourriture. Une pieuse femme lui offrit de la nourriture et un bol à aumône. En grand nombre, ascètes et divinités le comblèrent d'offrandes. Mains oiseaux de paradis chantèrent de leur voix merveilleuse, faisant cercle autour de l'être d'éveil. Dans cette scène où apparaissent deux des objets les plus emblématiques de la condition monastique, le bol et la robe, le Bouddha, qui n'est alors qu'un être d'éveil, se voit offrir cette dernière par les divinités de l'hindouisme, très arrangeante avec la démarche de ce renonçant singulier. De fait, la règle selon laquelle les moines doivent récupérer des haillons jetés au rebut a été très tôt assouplie, et notamment par le Bouddha lui-même, qui permit aux laïcs d'offrir des pièces de tissu pour en faire des robes. Mais les moines devaient toujours fabriquer eux-mêmes leurs vêtements et utiliser des fils grossiers afin que la douceur du tissu ne puisse constituer une source de plaisir pour son propriétaire. Un second assouplissement à la règle fut édicté par le Bouddha, ému du piteux état d'une trentaine de moines venus lui rendre visite dans son monastère après un long voyage sous la pluie. Les moines furent autorisés à recevoir des laïcs des robes neuves toutes faites une seule fois par an à la fin de la saison des pluies. Ce vêtement est encore aujourd'hui élaboré selon un principe élémentaire simple qui fait référence à cette scène originelle de la vie du Bouddha. Il s'agit d'une pièce de tissu constituée de morceaux disparates cousus ensemble. Appelée en japonais « kesa », donc du sanskrit « kashaya », terme faisant référence à la couleur, ou bien « funzoe », qui est une traduction du sanskrit « pamshukula », littéralement robe balayant les excréments, ce qui constitue une allusion claire à son origine. Ce vêtement est porté comme un châle ou une étole et il fait partie parfois des objets préservés comme des trésors dans les temples. C'est un vêtement de dessus caractérisé essentiellement par ses divisions verticales et horizontales. Il existe trois sortes de kessa déterminées par le nombre de bandes, chaque catégorie ayant un usage distinct ou correspondant au rang du moine dans la hiérarchie ecclésiastique. Son aspect morcelé, obtenu à la fois par sa structure et par la variété des tissus utilisés, fait référence à la scène originelle. Cependant, le don de tissu était tenu pour valoir de grands mérites aux fidèles laïcs, et ces derniers devinrent de plus en plus nombreux au fur et à mesure que le bouddhisme se répandait en Asie. Il mettra environ un millénaire pour parvenir au Japon, au milieu du VIe siècle de notre ère. Les fidèles n'hésitaient pas à offrir des pièces d'autant plus belles qu'ils comptaient en tirer de plus grands profits spirituels. Et très vite, dès l'arrivée du bouddhisme en Chine, on recourut donc, semble-t-il, plus à la soie qu'au chanvre, les kessa devenant des pièces particulièrement somptueuses dans le costume des moines. Mais loin de satisfaire le plaisir esthétique ou de servir à démontrer la puissance de cette église, le kessa constituait et constitue toujours en soi un objet de culte qui permet notamment d'exprimer la splendeur de la vérité bouddhique. Le paradoxe n'est donc qu'apparent et le kessa ne saurait en théorie servir au défilé de mode délirant de l'église catholique proposé dans Fellini Roma. Si l'on revient à la cour impériale de l'époque de Heian, l'importance du facteur social dans le thème de l'humiliation peut être illustrée par l'histoire de Messire Vert Toujours, telle que racontée dans un recueil d'anecdotes édifiantes compilées au XIIe siècle, les histoires qui sont maintenant du passé. Pendant le règne de l'empereur Murakami, donc au milieu du Xe siècle, un certain Minamoto no Kunimasa, d'ascendance impériale par son père et donc de haute naissance, devait à son physique particulièrement ingrat et notamment à son teint verdâtre le sobriquet de « Messire vert toujours ». Aotsune no Kimi. Il était la risée de la cour, au point que l'empereur tensa vertement, si j'ose dire, les moqueurs. Ces derniers firent alors le serment de ne plus jamais parler de Kunimasa en utilisant ce sobriquet. Je cite la traduction du regretté Bernard Franck. « À celui qui, après avoir fait pareil serment, emploierait encore cette appellation de vert toujours, on fera payer une amende en lui imposant d'offrir du saké, des accompagnements, des fruits et le reste. » Mais peu de temps après, le ministre Fujiwara no Kanemichi viola cet engagement et fut donc pressé de payer une amende devant toute la cour. Le jour dit, Kanemichi, je cite, en tenue de service, avec la figure d'un homme qu'on dirait brillant de lumière, avec une grâce qui débordait et débordait, répandant une odeur suave au point qu'on ne saurait dire, survint. Du souple et magnifique pan de sa tunique, il laissait dépasser un vêtement intérieur vert. De même, ses chausses bouffantes qu'il portait, de couleur verte. À ses quatre gardes du corps, il faisait tous porter tunique de chasse, pantalon large et robe de dessous vert. À l'un, il faisait tenir sur un plateau décoré de dessous verts des kiwis d'été, posés jusque par-dessus bord dans des assiettes de céladon, c'est-à-dire une céramique de couleur verte. À un autre, il faisait tenir une jarre de céladon dans laquelle on avait mis du saké et dont on avait enveloppé le goulot à l'aide d'un mince papier d'écorce vert. À un autre, il faisait tenir, suspendu à une branche de bambou vert, cinq ou six petits oiseaux verts. Entendant l'éclat de rire de l'assistance, l'empereur se risque à jeter un coup d'œil sur le spectacle et se joint, bien sûr, à l'hilarité générale. Je cite, « Après cela, comme il n'était plus arrivé que Sa Majesté exprima son mécontentement, les courtisans rirent toujours davantage de cette histoire, en conséquence de quoi son sobriquet demeura définitivement appliqué à Messire Vert Toujours. » La gêne de l'empereur au début de l'anecdote s'explique non pas par un sentiment d'empathie vis-à-vis de Kunimasa ou par une condamnation morale du traitement dont il est la victime, mais simplement par la crainte de voir le père de Messire Vert Toujours, qui est son propre demi-frère, lui reprocher de ne pas être intervenu. L'empereur est le seul qui puisse, par sa position, rétablir l'ordre, au moins en apparence, mais Murakami, l'empereur donc, ne réagit que par crainte d'un conflit éventuel avec un prince membre de sa famille et non par respect pour Kunimasa ou par simple humanité. Fait remarquable, le récit est mené de façon à ce que le point de vue de la victime ne soit jamais exprimé. Comme si le narrateur prenait lui-même parti dans l'anecdote pour les rieurs. La narration oscille en effet entre un sujet d'énonciation collectif, les courtisans, et deux personnages, l'empereur Murakami et Kanemichi, le courtisan, la conclusion de l'histoire revenant à l'empereur. La sanction sociale publique que le pauvre Kunimasa doit à la singularité de son apparence et de sa complexion, et non de son comportement ou de son caractère, dont on ne sait rien, se trouve confirmée par l'hilarité finale du souverain qui absout le contrevenant. Le récit insiste sur le charme personnel de Kanemichi, qualité essentielle dans la société de cour, et le place en position d'antithèse naturelle par rapport à sa victime. Son sens de l'à-propos, l'esprit avec lequel il paie son amende, légitime la cruauté du traitement infligé à Kunimasa et l'humiliation permanente qu'il subit. Si l'histoire de Messire Vert Toujours est rapportée dans un recueil d'anecdotes véridiques et donc repose sur une certaine vérité historique, le dit du Genji repose, lui, sur un tout autre contrat de lecture. Délibérément fictionnel, ce long roman rédigé par Murasaki Shikibu, une dame de cour au début du XIe siècle, commence par le récit de la naissance du prince Genji, surnommé le Radieux. Ce personnage est le fils de l'empereur régnant et d'une dame de cour de moyenne noblesse, sans appui familial, et surnommé la dame d'atour du Kiritsubo, c'est-à-dire du clos du Polonia. Ce Kiritsubo, ce clos, est situé dans l'enceinte de la résidence impériale, au nord-est, assez loin du pavillon, de pureté et de fraîcheur, où se passait la vie quotidienne de l'empereur. Les dames d'atour sont de plus d'extraction trop modeste pour que leurs enfants puissent avoir droit au titre de prince de sang. Ces derniers sont donc relégués au statut de simple sujet par la réception d'un nom de clan, en l'occurrence Genji. Genji n'est donc pas du tout un nom personnel, non plus que Hikaru, le radieux, dans le cas de notre héros. L'empereur en titre a également pour épouse une dame de haute naissance, fille de ministre est surnommée l'épouse impériale du Kokiden. Elle réside au Kokiden, au pavillon de l'expansion du Bo, et dispose également d'une chambre réservée dans les appartements privés du souverain. Elle lui a déjà donné un fils, destiné par sa naissance, à être nommé prince héritier. La tragédie viendra de la faveur accordée par l'empereur à la dame d'atour au détriment de l'épouse impériale, puisqu'au mépris de tous les précédents, il accorde sa préférence à l'épouse de rang inférieur. Lisons l'incipit fameux de ce roman. En quel règne était-ce donc? Parmi les nombreuses épouses impériales et dames d'atout au service de sa majesté, il en était une qui, sans être de naissance insigne, jouait plus que tout autre de la faveur du souverain. Les épouses, persuadées chacune depuis toujours que la préférence lui était due, en étaient outrées. Aussi l'accablaient-elles de leur dédain et de leur jalousie. Mais loin de se détourner d'elle, le souverain ne l'en aimait que davantage et restait sourd aux critiques, au risque de donner par son comportement un exemple déplorable. Hauts dignitaires et courtisans eux-mêmes ne pouvaient s'empêcher de détourner des regards offusqués, la faveur qu'ils lui témoignaient était scandaleuse. Pourtant, bien qu'en but à de nombreuses vexations, la dame continuait à séjourner au palais avec pour seul appui l'affection sans pareille que daignait lui prodiguer sa majesté. Avec la naissance du Genji et la préférence marquée du souverain pour le tout jeune prince, la situation empire et sa mère doit subir des vexations de plus en plus atroces. La favorite pouvait certes compter sur la protection de sa majesté, mais nombreux étaient ceux qui guettaient ses moindres défaillances afin de l'humilier. Et pour elle, si fragile, la faveur impériale elle-même était devenue source de tourments. Elle avait pour logis, au palais, le clos du Polonia. Comment s'étonner que les allées et venues incessantes du souverain qui passait sans daigner s'y arrêter devant leurs appartements aient exaspéré ses nombreuses épouses. Aussi, lorsque les visites de la favorite à l'empereur se faisaient vraiment trop fréquentes, lui jouait-on ici et là de fort vilains tours sur les passerelles ou les galeries. Et il arrivait même que le bas des robes de ces dames de compagnie portât les traces d'ignobles outrages. Par ailleurs, il n'était pas rare qu'on s'arrangeât pour l'humilier en l'enfermant dans le couloir qu'elle ne pouvait éviter d'emprunter et dont on verrouillait les portes devant et derrière elle. Comme à tout propos les tourments qu'on lui infligeait ne faisaient que se multiplier, la plongeant dans une affection sans bornes, le souverain en ressentit une profonde pitié. Il fit transférer ailleurs les appartements de la dame d'atour qui résidait au Kōloden pour les attribuer à sa favorite, nourrissant plus encore la haine implacable dont elle était l'objet. Le Kohloden se trouve à l'arrière du pavillon de pureté et de fraîcheur. Par cette mesure, la distance entre les appartements de Kiritsubo, cette dame d'atour, et ceux du souverain se voit donc considérablement réduite, et les occasions d'humilier la favorite, y compris en plaçant sur son passage des déjections infâmes, donc sur le trajet qu'elle devait emprunter, deviennent donc moins fréquentes. La situation empire cependant et l'empereur s'entêtant dans sa passion, la jeune femme meurt de cette sorte de guerre psychologique alors que son jeune fils n'a que 3 ans. L'issue fatale du roman, dans le roman, est donc comparable avec la mort d'Enshi en 1019. Mais les circonstances sont cependant tout à fait différentes, sans compter la distance entre un univers fictionnel et la réalité historique. Kiritsubo, dans le roman, meurt d'avoir été entouré par le souverain d'égards excessifs pour son rang de naissance, alors que Enshi est abandonnée comme une femme du commun et doit donc endurer un traitement indigne pour son statut social. Si les conséquences de la tactique de Michinaga ne sont pas tant financières ou matérielles, ce qui aurait été le cas si elle avait été d'origine modeste, que sociale, elle ne peut survivre à cette humiliation. Quoique moins célèbre, un autre grand roman datant vraisemblablement de la fin du Xe siècle développe ce thème de façon très intéressante. L'histoire de la dame Ochikubo met aux prises une jeune femme d'ascendance noble avec une marâtre impitoyable qui, avec la complicité de son père, le moyen conseiller, la confine dans une remise, Ochikubo, d'où le nom du roman, et lui fait subir des traitements indignes pour son statut de naissance. Sorte de cendrillon japonaise, l'héroïne va rencontrer un aristocrate nommé Michiyori, qui, touché par le destin de la jeune femme, en fait son épouse officielle et la venge des humiliations qu'elle a subies. Les représailles seront impitoyables. Il parvient ainsi à déshonorer la quatrième fille de la marâtre, en lui faisant épouser le personnage le plus laid et le plus ridicule de la cour. Il continue ses actes de vengeance par une suite d'humiliations publiques qu'il inflige à la famille de son épouse, particulièrement lors des pèlerinages et des fêtes. La perte de prestige consécutive à la riposte de Michiyori rejaillit sur la carrière du père de la dame, qui voit s'envoler tout espoir d'avancement dans l'administration impériale. Michiyori continuera un certain temps ses actes de vengeance qui détruisent totalement la réputation de cette maison et va jusqu'à la fragiliser sur le plan économique. Cependant, si l'auteur s'attache manifestement à décrire des rapports sociaux empreints de cruauté, ce conte initiatique dont l'arrière-plan historique a trait à des conflits générationnels, institutionnels et politiques, s'achève sur la réconciliation finale entre Michiyori et sa belle-famille et sur une promesse de prospérité générale. Le réalisme brutal cède le pas à une célébration idéalisée des valeurs de l'aristocratie. L'humiliation de ce pauvre seigneur vers toujours ne repose sur aucune faute dont il se serait rendu coupable, sinon son manque de charme personnel. Mais le traitement infligé à Fujiwara no Enshi, à la mère du Genji, ou à la dame Ochikubo, de même que la vengeance opérée par Michiyori sur sa belle famille, s'explique très bien au regard de ce que l'on sait aujourd'hui de la société de Heian, de son fonctionnement et notamment du rôle politique de l'institution matrimoniale dans les rapports de force. L'humiliation publique peut également stigmatiser des individus quand leur comportement, cette fois-ci, tranche avec le prestige de leur rang ou de leur milieu de référence, ainsi que le note avec malice Seishonagon à la fin du Xe siècle, dans ses notes de chevet, à propos d'un certain Taelano Nanimasa, apparemment coutumier de bévues qu'il exposait à la risée de la cour. Il faisait partie de l'entourage proche de l'impératrice Fujiwara no Sadako, que Seishonagon servait également. Je cite. Un jour, l'impératrice expliquait à Nanimasa comment on devait faire les costumes d'apparat destinés aux jeunes filles appartenant à la suite de la princesse impériale Osako. « Et le vêtement qu'elles mettront par-dessus le gilet, demanda-t-il, de quelle couleur doit-il être ?» Les rires que l'on entendit étaient justifiés cette fois encore. Nanimasa dit peu après « Si l'on présente à la princesse de la vaisselle ordinaire, ce sera laid. Il faudrait, ce me semble, un petit plat dans un petit plateau. » Il faudrait aussi, lui dis-je, c'est donc Seishonagon qui parle, qu'elle eût auprès d'elle des jeunes filles portant le vêtement que l'on met par-dessus. Mais l'impératrice me tança. Ne le raillez pas ainsi, comme font les gens ordinaires, c'est un si brave homme, j'ai pitié de lui. Témoin direct de la scène, Sei Shonagon était doté d'un tempérament très observateur et ne craignait pas l'ironie. Nanimasa et bien d'autres en font les frais à plusieurs reprises dans les notes de chevet. Ainsi, elle n'hésite pas à donner de la publicité au fait que ce dernier ignore le nom d'un vêtement fort courant dans le costume des dames de la cour de l'époque, la robe dite kazami, qu'il remplace donc par une périphrase, le vêtement qu'elles mettront par-dessus le gilet. Il ajoute à sa maladresse en commettant en une faute de prononciation supplémentaire rendue dans la traduction petit par petit, un chusei pour chisaki, ce que Sei se hâte de relever en le renvoyant à sa première bévue. Notons les qualités morales de l'impératrice Sadako qui reproche son ironie à Sei Shonagon et pour des raisons tout à fait différentes que celles invoquées par l'empereur Murakami quand il réprimande les railleurs de Messire vers toujours. Contrairement à ce dernier cependant, Nalimasa s'expose au ridicule par ses maladresses. Dans le public très étroit, dans le milieu très étroit de la cour impériale où tout se sait, les rumeurs ont au fait de rendre publics les avanies et le prestige, essentiel pour un individu ou un groupe familial, peut cruellement souffrir de l'humiliation au point que des carrières se voient compromises, ainsi qu'on l'a vu pour le père de la dame Ochikubo dans le roman éponyme. Le risque est aussi grand pour ceux qui doivent leur prestige personnel, plus à leur maîtrise d'une voix, comme la poésie, qu'à la noblesse de leur naissance. Par le biais des jeux intellectuels favorisés dans le milieu de la cour impériale, notamment à l'occasion des célébrations officielles, l'humiliation pouvait gravement entacher la réputation de lettré ou de poète et conduire parfois à des issues fatales. Ainsi, l'histoire d'un certain Yukinaga, moyen fonctionnaire du sixième rang, racontée au début du Moyen-Âge par Urabe Kenko dans ses heures oisives. Du temps de l'ex-empereur Gotoba, Yukinaga, ex-gouverneur de la province de Shinano, était une célébrité pour son érudition en lettres classiques. Un jour, il fut nommé membre d'un jury pour délibérer de la composition musicale de danse chantée. Il se perdit dans deux mouvements de la danse des sept vertus et on l'affubla du sobriquet classe 6, 5 vertus. Dégoûté, il abandonna les études et se fit moine. Bien lui en prit, car d'après Kenko, c'est à la suite de cette déconvenue qu'il aurait rédigé la version la plus ancienne de l'épopée guerrière des Heike, si importante dans la culture médiévale. La composition poétique jouait un rôle essentiel dans les échanges quotidiens à la cour et notamment dans la séduction amoureuse. Il était très mal vu de ne pouvoir répondre à un envoi qu'il provienne d'une dame ou d'un courtisan. Quand on ne pouvait répondre soi-même, on avait parfois recours à un poète qui vous prêtait sa plume afin de vous sauver du ridicule. Au tout début du Moyen-Âge, le poète et essayiste Kamonocho Omei livre dans ses notes sans titre quelques techniques d'évitement pour le cas où une dame vous adresse un poème, sans risque d'humiliation publique, recette qui lui avait été enseignée par son propre maître. Je cite « Il arrive souvent qu'on soit embarrassé quand une dame sans discernement vous adresse un poème dans un lieu public. Il y a des manières de faire dans ces cas-là. On peut tout d'abord prendre un air stupide, en faisant celui qui n'a pas bien entendu, et insister encore et encore pour se faire répéter le poème. La dame, confuse, fera des difficultés pour répéter clairement. Entre-temps, on aura peut-être pensé à une réponse qu'on pourra alors lui adresser. Si l'on ne trouve toujours rien, on pourra s'en tirer en laissant les choses non éclaircies. Voilà un premier cas. Il arrive aussi qu'une dame, récemment entrée au palais ou au contraire rompue à tous ses usages, vous adresse en guise de ce qu'elles appellent une équivoque, un ou deux vers d'un poème que vous n'avez jamais entendu. Si on comprend ce qu'elle veut dire, on lui répond comme on veut. Mais si le sens reste obscur, on peut répondre par un simple « vous n'y songez pas ». Pareille réponse est adaptée à tous les cas. Elle convient aussi bien pour le cas où la dame vous exprime son amour que pour le cas où elle vous fait des reproches ou se plaint de vous. Si vous le dites sur un ton de fâcherie, vous semblerez avoir cédé un mouvement d'humeur et vous pourrez toujours, tourner le reproche en un spirituel badinage. Une dame telle que Sei Shonagon était si habile à répondre de façon improvisée à tous les envois qu'elle n'aurait jamais usé de ce genre de stratagème, plus adapté au cas de ce Taira no Nanimasa dont elle se moque avec malice, ainsi qu'on l'a vu plus tôt. Ces échanges constituaient de fait des performances. Et les sources sont unanimes pour les décrire comme de véritables épreuves auxquelles devaient se plier nobles et dames de la cour de façon quotidienne. Dans les cas de franche rivalité, les défis poétiques pouvaient déstabiliser, voire humilier le destinataire, si ce dernier ne trouvait pas une réponse adaptée dans un délai raisonnable. L'érudition poétique servait également à tester les compétences d'un adversaire et à le tourner en ridicule le cas échéant. C'est ce que raconte Kamono Chōmei, toujours dans ses notes sans titre, à propos de deux poètes fameux de la fin du XIe et du début du XIIe siècle, le moine Rinken et Fujiwara no Mototoshi, au sujet de la deuxième anthologie impériale, le recueil de poèmes sélectionné postérieurement, grand classique datant du milieu du Xe siècle. Je cite « Pour quelques raisons, ce même Rinken et Mototoshi n'étaient pas en bon terme, si bien que Rinken, décidant un jour de se moquer de son rival, choisit parmi les poèmes d'amour du recueil de poèmes sélectionnés postérieurement 20 pièces peu connues, de celles qu'on n'entend que rarement citées, et les ayant assemblées par paires, les apporta chez Mototoshi. J'ai ici, lui dit-il, en lui montrant ses compositions, un singulier concours de poèmes dû à quelqu'un qui voudrait le faire arbitrer. Veuillez l'annoter. » Mototoshi lut les pièces sans aviser le moins du monde qu'il venait du recueil de poèmes sélectionnés postérieurement et formula un grand nombre de critiques selon ce qui lui venait à l'esprit. Rinken alla montrer partout ses annotations. « Mototoshi, disait-il par dérision, ne fait aucun cas des 5 poètes du clos au poirier, c'est-à-dire les compilateurs de l'anthologie impériale. Ah, voilà un génie de la poésie qui surpasse même les anciens, lisez ceci. Tous ceux qui lisaient les poèmes et les annotations éclataient de rire. Mototoshi eut vent de cela et en fut mortifié, mais il n'y avait plus rien à faire. Plus grave, le lettré Fujiwara no Nagayoshi serait mort de chagrin après qu'une pièce de sa composition a été critiquée lors d'une réunion littéraire organisée donc par Fujiwara no Kinto, qui faisait autorité dans cette voie à l'époque. Un peu plus tôt, lors du concours poétique de l'ère Tentoku en 960, organisé au palais impérial par l'empereur Murakami lui-même, deux fameux poètes de ce temps, Taira no Kanemori et Mibuno Tadami, composèrent chacun une pièce sur le thème « Premier amour ». Elles étaient fort réussies toutes les deux, au point que l'arbitre ne put les départager aisément. Mais pour finir, la composition de Kanemori fut néanmoins déclarée la meilleure, et Tadami en fut si humilié qu'il tomba malade et en mourut peu après. On trépasse beaucoup donc dans le Japon classique, comme vous le voyez, quand on est amené à perdre son prestige personnel, qu'il soit de nature sociale ou intellectuelle. Il arrive aussi qu'on ne puisse survivre à l'humiliation amoureuse. Ainsi, l'histoire de Taira no Sadabumi, donc qui vécut à la fin du IXe siècle au début du Xe siècle, et de Jiju. Passé à la postérité, sous son surnom de Heichu, et poète talentueux, comme il se doit, ce fonctionnaire de moyenne noblesse était doué d'un grand charme et passait pour une sorte de don juan invétéré. Ses nombreuses conquêtes ont d'ailleurs fait l'objet dès le milieu du Xe siècle d'un récit, le dit de Heichu, mais la version que je vous propose de cet épisode est tirée des histoires qui sont maintenant du passé que j'ai déjà mobilisées plus haut. Se trouvait au service du ministre de la gauche, Fujiwara no Tokihira, une dame nommée Jiju, dont Heichu tomba amoureux, comme on avait coutume de le faire à l'époque, c'est-à-dire séduit par sa réputation flatteuse et sans l'avoir jamais vue. Pourquoi ? Tout simplement parce que les dames nobles ne devaient jamais se montrer en public. Heichu commença donc sa cour de façon tout à fait classique en lui envoyant des poèmes auxquels elle ne répondait jamais. Alors Heichu, se lamentant et se désolant, écrivit et lui envoya une lettre dans laquelle il lui disait « Daignez faire voir ne fût-ce que ces 2 seuls mots « j'ai vu ». Si Heichu renonce à s'assurer du talent poétique de Jiju, il ne renonce pas pour autant à voir un échantillon de son écriture, car le talent calligraphique était également essentiel dans les relations amoureuses. Mais reprenons la lecture. Comme son messager rentrait, porteur d'une réponse, Heichu sortit à sa rencontre en se heurtant aux objets, prit en hâte la réponse et regarda. Or, voici quand ce qu'il avait écrit et envoyé dans sa propre lettre « daignez faire voir ne fût-ce que ces 2 seuls mots « j'ai vu », on avait découpé ces 2 mots « j'ai vu » et qu'on les lui envoyait collés sur du mince papier d'écorce. Quand Heichu vit cela, le dépit et la tristesse, qu'encore plus il éprouva, furent au-delà de toute limite. Quelques mois plus tard, il profite d'une nuit épouvantablement pluvieuse pour tenter d'attendrir le cœur de Jiju. Se disant, je cite, « Quand même, si j'y allais cette nuit, fût-elle une personne ayant le cœur du pire démon, elle serait bien saisie de pitié. » Il se présente donc en secret, comme tout galant qui se respecte dans le code amoureux de l'époque, et une jeune servante le fait attendre en lui donnant l'assurance qu'on se rendra à ses raisons. Heichu se félicite d'être venu par une nuit pareille et patiente, plaquée dans l'obscure encoignure d'une porte. Au bout de 2 bonnes heures, on le fait entrer avec la plus grande discrétion. La pièce n'est pas éclairée, ce qui est aussi l'usage. Heichu est au comble de la joie quand, au moment où le couple va s'étendre, la femme lui dit « Voici que j'ai fait un oubli extrême. Je suis venue sans mettre le fer d'accroche de la cloison mobile de la séparation. Je m'en vais le mettre et je reviens. » Bien sûr, la dame se lève et va fermer la porte, mais depuis l'extérieur. Puis s'éloigne, bien vite, ce dont finit par se rendre compte le galant. Qu'après l'avoir fait entrer, on se fût joué de lui à ce degré était une chose qui le remplissait de honte et de dépit. Si mortifié qu'il soit, il ne lui reste qu'à repartir discrètement avant le lever du jour, comme c'était la règle dans le cas de relations non officielles. Malgré ces deux tentatives malheureuses, il ne peut oublier Jiju et cherche à se dégoûter d'elle en se mettant à l'affût de quelques bruits qui pourraient entacher sa réputation, mais c'est peine perdue. Il en vient alors à une extrémité déraisonnable. Les nobles de l'époque se débarrassaient de leur sel à l'aide de boîtes de discrétion dont le contenu était vidé dans les latrines publiques. Heichu imagine donc de se procurer celle de sa belle pour se sentir éloigné d'elle. Je cite, « Là-dessus, tandis qu'en faisant comme si de rien n'était, il s'était mis aux aguets près de l'appartement de Jiju, voici qu'une fille d'environ 17 ou 18 ans, au maintien et aux manières plaisantes, dont les cheveux manquaient à 3 pouces près d'égaler la longueur de sa robe de dessous, à la robe de dessous en légère étoffe double aux couleurs de l'œillet sauvage, et qui, relevant d'un air négligé son pantalon large violet foncé, tenait enveloppé d'un léger tissu teint aux clous de girofle, une boîte qu'elle dissimulait en déployant son éventail aux peintures tracées sur un papier de couleur rouge, sortit de l'appartement et s'en fut. Dans un endroit que nul ne voyait, il s'approcha d'elle en courant et lui ravit la boîte. Quoique la fille, en pleurant, la lui réclamât, sans pitié, après la lui avoir arrachée, il partit en courant et pénétrant dans un édifice où il n'y avait personne, y mit de l'intérieur la barre de fermeture, si bien que la fille resta debout au dehors, resta debout en pleurant. La boîte étonne le galant, car, enduite de laque à semis d'or, elle sort de l'ordinaire. Quand il se décide à l'ouvrir avec prudence tout de même, il est frappé par un parfum de clous de girofle d'une suavité extrême. Mais il n'est pas au bout de ses surprises. Il se méprend tout d'abord sur le contenu de la boîte, croyant avoir affaire aux célestes déjections de sa bien-aimée, puis il comprend. Pour la chose qu'elle a mise là en guise d'urine, c'est qu'elle a fait bouillir du clou de girofle et qu'elle en a mis le bouillon. Et quant à l'autre chose, c'est qu'ayant fait macérer de l'igname et des parfums mêlés dans du sirop de vigne vierge, elle a introduit le tout dans le manche d'un gros pinceau, puis l'en a retiré, afin de lui donner cette forme. Autrement dit, Jiju a prévu que Heichu irait jusqu'à cette extrémité et n'a pas hésité à lui jouer un dernier tour à sa façon, ce qui ne fait que redoubler son admiration pour elle. Le narrateur a d'ailleurs habilement annoncé cette conclusion en décrivant en détail la cohorte servante chargée du précieux fardeau. Charme de la jeune fille, cheveux, costume, gestuelle. Cette dernière constitue en effet un double symbolique et visible de la belle dame sans merci qui jusqu'au bout se dérobe dans la pénombre discrète de ses appartements. La mise en scène est claire, mais Heichu ne comprend que trop tard le piège dans lequel il est tombé et s'écrie « Eh bien, quelle tournure d'esprit d'une personne ainsi en toute chose! Elle n'est point quelqu'un de ce monde! Ah, comment tout ceci pourra-t-il s'achever sans que je l'aie retrouvé ?» Tandis qu'ainsi ses pensées s'égaraient, Heichu tomba malade, et sur ce, tandis qu'il était souffrant, il mourut. Dans ce récit, composé de 3 épisodes qui gagnent en intensité au fur et à mesure qu'on approche de la conclusion, Jiju maîtrise suprêmement le rituel amoureux et s'en sert pour éconduire le pauvre Heichu, qui ne peut supporter de faillir à sa réputation de don Juan. Mais il pouvait aussi arriver que le galant éconduise à son tour la belle. Selon la règle, les dames d'un certain rang ne pouvaient, on l'a vu, se montrer en public, et le noble de cour commençait sa cour, sans jamais avoir vu l'objet de sa flamme. Il faut préciser toutefois que peu d'unions matrimoniales à l'époque, surtout dans la très haute aristocratie, reposaient sur un choix personnel, et que dans ce cas, la séduction personnelle donc des époux importait peu. Mais revenons à cette coutume qui, somme toute, laissait une liberté totale aux protagonistes. Elle commençait par la quête poétique qu'on appelle tsumadoi, littéralement le fait de demander comme épouse une dame. À l'origine orale, cette quête se transforme à la cour de Heian en art épistolaire. Le galant engageait sa cour en envoyant des poèmes auxquels toute jeune fille bien élevée ne devait au début pas répondre en personne, ses parents devant répondre à sa place quand il s'agissait d'un mariage arrangé. Quand la quête recevait une réponse favorable, le gendre pressenti était invité dans la demeure de la dame pour la coutume du yobai, c'est-à-dire des visites clandestines que l'homme rendait à sa compagne à la nuit tombante. Les noces étaient composées de 3 nuits de relations intimes dans la maison des parents de la jeune fille, nuits qui constituaient le test de l'entente conjugale. Quand l'homme apparaissait dans cette même maison en plein jour, cela signifiait que les relations étaient officialisées. L'homme arrivait dans la maison de la femme au soir tombant et devait la quitter au lever du jour, au chant du coq et sans se faire voir, tant que la relation n'était pas officialisée. Et de retour chez lui, il devait composer un poème de séparation, Kinugino no Uta, où il était censé exprimer, bien sûr, le chagrin de cette séparation. Si le ton de ce poème manquait d'enthousiasme, les parents de la jeune dame pouvaient légitimement soupçonner un échec. Suivait la deuxième nuit, qui se déroulait comme la première, et c'est durant la troisième nuit que l'on accomplissait les rites de la confirmation du mariage, de façon publique et privée. Le matin de la troisième nuit, l'époux restait dormir jusqu'à une heure tardive avec la femme reconnue comme son épouse. Aux visites secrètes succédait la période de l'habitation plus ou moins régulière, dans la maison de la dame, dans le cas d'une épouse principale, ou celle du mariage par visite, dans le cas d'une épouse secondaire. Même officialisé, le lien restait cependant très fragile et il était très facile de se défaire d'un partenaire en cas de mésentente. Dans cette coutume, c'est donc le lien sexuel qui, préexistant à la reconnaissance publique du mariage, constituait le fondement du droit matrimonial. Selon la coutume, l'union devait faire l'objet d'un choix libre des protagonistes et l'autonomie sexuelle était donc très importante pour les femmes comme pour les hommes. Les sources insistent cependant sur le fait que ces 3 nuits du yobai avaient un caractère d'épreuve pour les jeunes filles qui devaient se conquérir un époux potentiel. C'est pourquoi les visites durant les premières nuits gardaient un caractère secret. Qu'un homme interrompe ses visites après la première nuit constituait donc un sujet d'humiliation extrême, car cela signifiait que sa compagne ne lui avait pas plu. Le recueil d'anecdotes appelé « Les contes du Yamato » et vraisemblablement compilé au milieu du Xe siècle, met ainsi au prix ce même Heichu que nous avons déjà rencontré, mais cette fois-ci avec une dame surnommée Musashi. Cette Musashi par la suite répondit à ses lettres et il parvint à ses fins. C'était une aimable jeune personne, bien faite, avec de longs cheveux. Bien des gens l'avaient recherchée, mais elle était fière et n'avait cédé à aucun homme. Celui-là cependant, qui lui faisait une cour empressée, elle consentit à le rencontrer. Mais le lendemain matin, il ne lui envoya point de lettre, et jusqu'à la nuit, pas la moindre nouvelle. Maudissant sa cruauté, elle veilla jusqu'à l'aube. Le lendemain, elle attendit toujours, mais point de lettre. Cette nuit, elle espérait encore, mais au matin, ses suivantes se répandaient en propos divers. Cet homme, dont on nous avait bien dit qu'il était frivole, vous avez fini sur ses instances par accepter de le voir. Eût-il lui-même été empêché, il pouvait du moins vous envoyer une lettre, c'est odieux. Et comme ces dernières ne faisaient que dire ce qu'elle ressentait elle-même, Musashi versa des larmes de rancœur et de dépit. Plusieurs jours passent sans que Heichu se manifeste, et la jeune femme sombre dans le désespoir. Ses suivantes cherchent néanmoins à la rassurer. Je cite « Ne le prenez donc pas au tragique, il n'y a pas là de quoi vous laisser mourir. Mettez-y fin sans que personne ne le sache, et vous trouverez bien un autre parti. » Pleine de bon sens, les suivantes conseillent en effet à Musashi de renoncer à Heichu puisque l'étape de Yobai n'est pas achevée. Leur relation reste donc secrète. Elle n'a, en théorie, rien à craindre de cette mésaventure si elle ne vient à s'ébruiter. Cependant, la jeune femme que cette humiliation accable coupe sa longue chevelure et se fait nonne. De son côté, Heichu s'était inquiété de Musashi, mais d'une humeur frivole, il s'était laissé entraîner dans des banquets sans fin et n'avait pu retourner la voir ou même lui envoyer le moindre billet. Quand enfin il dégrise et s'apprête à lui écrire, quelqu'un vint frapper à sa porte. « Qui est là ? » demanda-t-il. « Il me faut parler à Heichu, » répondit-on. Il glissa un coup d'œil, c'était une femme de cette maison-là, donc de la maison de Musashi. Le cœur serré, il la fit entrer et prit la lettre qu'elle portait. Dans le papier imprégné d'un suave parfum, une boucle de cheveux était enclose. Consterné, il comprend que Musashi est entré dans les ordres par dépit et cherche en vain à la voir. En guise de clôture de ce récit, qui constitue une parfaite antithèse des déboires de Heichu avec Didieu, les deux protagonistes échangent des poèmes où ils se disent adieu pour toujours. Cet échange souligne l'ironie amère de cette aventure, car il vient en lieu et place de ce poème de séparation, Kinugi no Uta, vainement attendu par la jeune femme et qui, en temps normal, engage le lien futur des époux. Au terme de cette promenade, j'espère vous avoir proposé quelques pistes de réflexion sur le thème de l'humilité et de l'humiliation dans le Japon classique, qui constitue en soi une clé d'une très grande pertinence pour comprendre cette société de cour que l'on décrit trop souvent comme un milieu peuplé d'oisifs raffinés. Contrairement au rapport de force qui prévalent dans la société guerrière où le prestige repose sur la puissance militaire et donc sur la force brutale, les rapports de force inhérents à la classe noble, rapports de force qui déterminent l'appartenance et le degré d'intégration à ce milieu de référence, découlent essentiellement du prestige de la naissance. Un noble de cour est estimé autant qu'il réussit à maintenir l'identité sociale, le rang et le prestige inhérents à son statut. Dans la concurrence permanente et la rivalité personnelle ou collective, l'humiliation mondaine, littéraire ou amoureuse, met en exergue le système de valeurs sur lequel fonctionne cette société et peut entraîner la relégation aux marges ou l'exclusion pure et simple, la mort par exemple, ou l'entrée en religion. Elle ne dit rien de la valeur intrinsèque, notamment morale ou spirituelle des individus, mais met à l'épreuve leur capacité vitale, à tout point de vue, à se réaliser sur le plan social, dans le rôle que leur naissance, leurs conditions ou un talent particulier leur ont assigné, comme épouse, comme galant, comme poétesse, comme lettrée, comme aristocrate ou comme courtisan. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour des questions éventuelles.